Bonsoir à tous et bienvenue.
Bienvenue dans le podcast le plus dark de sa génération, le plus libertaire, le plus anti-autoritarisme, qui veille sur une ville malade et violente d'un œil renfrogné. Bienvenue dans l'heure est sombre. Et ce soir, je ne serai pas seul car je serai accompagné de ma fidèle chatte à neuf vies, chatte gouttière qui en toutes circonstances passe par derrière, muse de la chauve-souris à qui aujourd'hui la vie ne sourit plus. C'est vrai que ces derniers temps, tu as pris du cul et même pas mal de billes aussi. Non, mais je suis sûr que si tu faisais un petit effort, ça s'arrangerait, un petit peu de vernis, tu sais. C'est pas grand chose. Mais ça va, je dis ça pour déconner aussi. Oui, pardon, mais ne t'énerve pas, on peut plus rien dire. Et d'ailleurs, pourquoi c'est moi qui devrais dormir sur le canapé alors que c'est toi qui es énervé? Bref, je m'emporte, mais dans le fond, je l'aime car si physiquement elle a changé, elle reste ma préférée. Bonsoir Gaspard.
Bonsoir Raphaël. J'aime bien comment on est passé un truc très sombre à ton texte.
Et avec nous ce soir, le retour du Wonder Boy, notre acolyte petite pépite qui dans vos oreilles s'excite toujours la frite quand il cite l'élite des auteurs de comics qu'on édite. Malheureusement, il est farouchement anti. C'est notre Robin à nous, troisième du nom, et ce soir, il nous accompagnera dans les bas-fonds. Un triomphe pour Simon.
Salut.
Bonsoir Simon. Et ce soir, j'espère que vous avez deviné que nous allons parler de choses un petit peu sombres. Nous allons parler tout simplement du Batman de Frank Miller, de Dark Knight Returns. Et alors, Frank Miller, c'est un auteur américain né le 27 janvier 1957 à Olney, dans le Maryland. Il est donc auteur de bande dessinée, mais également scénariste de films et réalisateur. Il grandit à Montpellier, dans le Vermont. Montpellier, Vermont.
Tu crois qu'ils ont un accent du sud ou pas? Oui. Mais américain.
Et ils savent pas pourquoi, mais ils ont une envie de jouer au rugby. Mais
tout le temps.
Ils savent pas pourquoi. Et il commence sa carrière dans les comics en 78 par l'adaptation en BD de Twilight Zone, qui était d'abord une série télévision. Mmh. Puis il travaille chez DC Comics et Marvel. Il devient dessinateur et scénariste de la série Daredevil, dont la reprise en main va être saluée par la critique pour sa maturité. Le personnage devient beaucoup plus sombre et complexe, mais surtout violent. Et oui, la violence, c'est la marque de fabrique et c'est...
Commence à avoir un premier dénominateur commun, là.
Voilà, violence. On va en avoir d'autres après. Hein.
Ah non.
Et on se garde les remarques sur le fascisme, n'est-ce pas? En 1986, c'est là que tout se passe, puisque c'est l'année du Dark Knight. On lui confie Batman, on lui dit « Est-ce que tu veux reprendre la série Batman ?»
Garde-le.
Voilà, tu l'emmènes au square, tu fais ce que tu veux. La série Batman qui est en décrépitude face à un personnage un petit peu trop lisse, il va en faire la série Dark Knight, qui met en scène un Batman vieilli et ultra-violent. Eh oui, violence numéro 2.
C'est parti.
Eh oui. Bonne année en 1986 d'ailleurs, puisque c'est aussi la sortie de Watchmen. Et oui.
Ah oui,
et
d'accord.
Watchmen et The Dark Knight Returns vont lancer ce qui s'appelle aujourd'hui les romans graphiques. Et on aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus, mais pourquoi on appelle ça des romans graphiques? C'est parce que, à l'opposé des comics qui sortaient, qui étaient des petites publications d'une 20, trentaine, voire cinquantaine de pages maximum sur du papier de mauvaise qualité, là on avait des auteurs qui ont imposé des œuvres beaucoup plus longues sur du papier de qualité, s'inspirant notamment de la BD franco-belge et dépassant les carcans habituels. Donc, 1986, il lance le Dark Knight Returns. C'est d'ailleurs le modèle Dark Knight qui sera désormais, en fait, la personnalité de Batman la plus connue. C'est-à-dire un Batman un peu plus mature, un peu plus violent, et qui sera reprise dans de nombreuses adaptations de la BD.
Christopher Nolan.
Voilà, avec Xavier, là. Ou en jeu vidéo, avec les Batman Arkham Asylum, Arkham City, et j'en passe des meilleurs, qui s'inspirent tous de The Dark Knight.
Xavier, hein.
Ouais, oui, exactement. En parallèle de son travail pour les grands éditeurs, il développe ses propres séries. Ronin, qui s'inspire du Japon et du manga, c'est une patte qu'on retrouvera notamment dans The Dark Knight, c'est très inspiré du manga. Mais surtout Sin City, véritable claque visuelle, entièrement en noir et blanc négatif.
Jamais, il a inventé le noir et blanc cette manière.
Oui, c'est-à-dire que lui, il voyait en noir et blanc uniquement, donc il savait pas.
Mais c'était une révolution.
Paroxysme de son ultra-violence et de sa radicalité, donc il révolutionne le comics en faisant un médium ultra-violent, mature, avec un découpage et des angles qui empruntent au manga. C'est Sin City qui demeure son chef-d'œuvre graphique. La série est récompensée par 4 Will Eisner Awards et Frank Miller reçoit pour le premier en 1993 meilleur dessinateur encreur pour une publication en noir et blanc et celui de meilleur scénariste et dessinateur. Il a également une carrière de scénariste puisqu'on le retrouve derrière Robocop 2 et Robocop 3. Oui, il a ensuite co-réalisé avec Robert Rodriguez l'adaptation de Sin City en 2005 de la
et
suite
Quentin
en 2014.
Quentin Tarantino a co-réalisé une partie de Sin City. Une scène du film, c'est lui qui l'a réalisé. La scène avec Benicio del Toro quand ils sont dans la bagnole.
Ouais. Bah écoute, ça je le savais.
Directed by Quentin Tarantino.
C'est la phrase que j'avais après, j'allais le dire en fait.
Bah très bien, pas de souci.
C'est pas grave, mais donc tu l'as dit, donc c'est pas grave.
Bon, y a pas de problème. Voilà. Ça me fait plaisir.
T'as d'autres infos que j'aurais déjà écrit et que j'aurais pas dit?
Non, il serait l'inventeur de la tarte tatin. Ça aussi, je l'avais trouvé. Sur Wikipédia, c'était en ref nécessaire, mais
je l'avais trouvé. T'aurais dû si commencer par marqué. Ça. La tarte tatin inventée par Will.
Mais il paraît qu'il en a fait une tarte très violente.
Ah, il me casse la gueule à la tarte. Donc voilà, on est face à The Dark Knight et je vais me tourner vers mes invités pour leur demander ce qu'ils ont pensé. Je vais commencer par Simon. Qu'est-ce que tu as pensé de The Dark Knight Returns?
J'ai trouvé que c'était une superbe œuvre à relire à nouveau. Des super dessins, le côté sombre du Batman. On a plein de références à toute la vie. Et tous les super méchants de Batman qui sont condensés dans je sais pas combien de pages. Très très beaucoup. Plaisant, super sympa, graphiquement, les couleurs, le script, génial.
Ouais, l'histoire est vraiment intéressante pour le coup. T'as plein de trucs qui se passent. Tu retrouves beaucoup des personnages de Batman qui ont un peu évolué. C'est une très bonne reprise, c'est très complet pour un Batman.
Par rapport au fait que ce soit un DC, ce qui est intéressant, c'est on s'attache beaucoup plus à la personnalité des super-héros, entre guillemets, dans les DC plutôt que dans les Marvel, j'ai l'impression, et c'est quelque chose d'intéressant à lire dans... On a toute une des personnages qui ont une énorme psychose, une personnalité qui est jamais tout blanc ou tout noir, donc c'est super super intéressant de se
projeter. Si, on t'a dit que c'était noir et blanc.
Oui.
Il coûte rien, lui.
C'est un peu gris, quoi.
Et toi, Gaspard, qu'est-ce que tu en as pensé?
Moi, je vais commencer par dire que tout d'abord, je lis pas de comics en fait. Donc,
pas tout court et d'ailleurs,
ouais,
c'est pas grave.
Et c'est pas ça, c'est pas un problème. On m'a décrit toutes les cases. Voilà. Je lis habituellement pas beaucoup de comics. Je vais pas voir les films. Enfin, ça me passe bien au-dessus de Gokiar. Non, mais évidemment, j'avais déjà entendu parler de trucs de Miller. Je l'ai lu, je trouve ça en effet. Très bien. Après, je dois avouer que c'est pas non plus le choc hallucinant. En fait, je trouve ça un peu bête au bout d'un moment. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment... Enfin, comment dire? Comme j'ai trouvé le film genre Joker, l'un des films les plus idiots que j'ai jamais vu de ma vie...
Attention, t'as pas le droit de dire ça.
L'équivalent de genre... c'est sombre. Tout est compliqué dans la vie. Et c'est un peu ça tout le temps.
Tu peux pas dire ça, on va se faire allumer par le 12-25 de
J'en ai rien à foutre. Allez-y, venez me chercher.
Je viens de me chercher.
Elles sont en public, les vidéos, je me branle, donc je m'en branle. C'est pas de soucis.
Malades, ils sont complètement fous, ces mecs.
J'en ai rien à foutre. Mais ce que je veux dire, c'est que, en effet, c'est assez, si on n'a jamais lu de comics et on s'attend à un truc assez enfantin, évidemment, ça te ramène bien droit dans la boue je dis ça pour faire vraiment le contrepoint, mais c'est-à-dire que il y a des idées de narration qui sont assez folles. Moi, il y a juste un truc qui m'a suragacé pendant toute la BD, c'est les coups de c'est raconté par des chaînes de télé, quoi.
Ouais, ah oui, mais ça,
et
c'est...
je trouve qu'au bout d'un moment, en fait, t'as envie de dire c'est bon, on a compris ton idée, champion.
En fait, il
la lâche pas. Ouais, et bon, ouais. au moins il est radical, hein. Il l'a posé, il la lâche pas du début à la fin,
mais
et ça bravo.
Points, on va sûrement y revenir, mais c'est
un peu chiant au bout d'un moment, quand même.
Il faut voir où est-ce qu'il fait ça. Il fait ça en 86, ouais. C'est le début les chaînes en continu aux États-Unis, sensationnalistes, etc., existent déjà. Mmh. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que faut le replacer, c'est-à-dire à l'endroit où ça a été fait en 86. Maintenant, ce sont des idées qui ont été prises, reprises et réutilisées un peu partout, même dans tous les médiums. Et on voit, tu vois, avec des films de merde comme Joker ou même les Batman de Nolan. Nolan, je sais jamais lequel c'est.
Non, c'est bien Xavier Nolan, t'as raison.
Xavier Nolan. Une touche très artistique, beaucoup de sensibilité.
Mais très bien l'accent, Batman, là.
T'as des trucs qui sont aujourd'hui connus. Mais à l'époque, en fait, c'est quand même très révolutionnaire. Et j'en profitais d'ailleurs pour glisser un petit peu mon avis, c'est que c'est vraiment, si on se met avec le 1986, c'est extrêmement intéressant, c'est très révolutionnaire. Déjà, c'est magnifique, putain. Et qu'est-ce que c'est bien dessiné. T'as des planches qui sont superbes. Le scénario est intéressant. Moi, je suis pas non plus un grand fan de comics ou un grand fan des univers avec des super-héros. Mais pour le coup, le scénar est vraiment cool. Tu retrouves des personnages intéressants que tu connais toujours. Il y a quand même un point qu'on abordera au long du comics. C'est une BD un peu fasciste quand même.
On va pouvoir revenir dessus.
Il y a un petit problème d'extrême droite.
Je sais pas si c'est d'extrême droite, c'est un truc très libertarien, comme on dit. L'équivalent de Clint Eastwood ou Chuck Norris avait fait une BD, quoi.
Voilà, c'est vraiment. Et d'ailleurs, Frank Miller cite comme une de ses influences majeures Dirty Harry, l'inspecteur Harry, qui est le mec qui va utiliser des méthodes dégueulasses contre des dégueulasses. Sauf que on le verra après, on aura l'occasion d'en parler là dans le podcast.
On pète la gueule au gouvernement là.
Voilà, c'est-à-dire qu'on pète la gueule au gouvernement et progressivement Miller il va péter la gueule au gouvernement en musulman, devenir complètement anti.
Il a quand même signé Batman versus Al-Qaïda, hein, donc ouais. Et c'est pas une blague.
Ouais, il a vraiment fait. Ouais, clairement. Il a fait ça et un de ses derniers.
Et il a dit que c'était juste pour faire chier les bobos.
Et la dernière. Alors, il avait appelé Batman contre contre Al-Qaïda et on lui a refusé qu'il mette Batman dedans. Donc, il a mis avec un autre mec. La dernière case, c'est littéralement lui qui campe dans une mosquée avec un bazooka qui tire sur des mecs. Et ça se termine là-dessus. Tu fais bah.
Non, okay, il est parti en cacahuète, Frank Miller. Mais c'est marrant. Mais on va avoir le temps de revenir dessus. Mais c'est marrant que tu disais qu'il y a cette année, en 86, il y a cette BD un peu de droite qui sort, qui est le Batman de Miller. Et en même temps, t'avais genre la BD du mec bien de gauche qui était le Watchmen d'Alan Moore, mais
je
vous laisse en parler. Ouais,
politiquement, ils sont un petit peu sur la même pièce. C'est-à-dire, tu parles de libertaires, je pense que t'as raison là-dessus. C'est des libertaires, mais on va voir que Frank Miller, il va progresser un petit peu dans l'alt-right. En attendant, on va tout de suite passer à l'histoire de The Dark Knight Returns. Et le livre 1 de Dark Knight Returns s'ouvre sur un Bruce Wayne qui a vieilli, enfin un Batman, Batman Bruce Wayne.
Qui fait de la confiture désormais.
Voilà, et il remet ses dents, ça s'ouvre sur une scène avec tout, mais avec les dents comme ça.
Alfred, où sont mes dents?
Il y a Alfred qui est derrière.
Fils de Joker.
Où sont mes bat-dents? C'est un homme de 55 ans en retraite depuis la mort du dernier Robin, son acolyte, et ça, on sent
Jason,
que ça...
Jason.
Qu'est-ce qu'on a fait, Jason? On sent que ça hante un petit peu sa conscience.
Ah, ça le hante même, parler de putain de trauma. C'est-à-dire que qui chez soi met genre les vêtements de son grand-père mort dans une vitre pour se souvenir qu'on a vécu ce grand traumatisme.
Puis se met devant et fait
ah
érection.
Papy. Lui fait ça tous les matins en disant Jason, qu'est-ce que j'ai fait?
Je mets les vêtements de mon grand-père, mais ça. Ça met vraiment tout le monde mal à l'aise, enfin surtout la casquette avec la tête de mort.
C'est le premier des Robin, tu vois, Jason?
Non, c'est le deuxième.
C'est le second, déjà. Hein.
Qui a été tué par Joker.
Bah oui, Joker.
Exactement.
Parce que le premier, il a pris sa retraite.
Oui.
Il a cumulé assez de bad points, en fait, pour pouvoir partir tranquillement à la retraite.
Régime universel pour tout le Bat-Universe, finalement. Et donc, notre Batman, il occupe son temps désormais entre l'alcool, la dépression et la réhabilitation de Harvey Dent.
Comme Simon.
Et deux.
Comme Simon, je dis.
Exactement.
Pour les putes.
Oui.
D'accord.
Harvey Dent qui était... C'était quoi l'autre nom de Harvey Dent?
Double face.
Oui, le scotch.
Oui.
À laquelle il a donc consacré beaucoup d'argent, puisque non seulement il a consacré de l'argent à son retraitement psychologique, mais également à lui reconstruire un peu le visage. Et on se rend compte qu'on a un Batman qui est plus Bruce Wayne qu'autre chose, mais qui est surtout plus porté sur la bouteille. Quoi.
Je ne sais pas si on a précisé, mais il a plus de 60 piges.
Il a 55.
55? Ah
il
bon.
A 55 ans.
Il peut encore avoir
voilà.
Non, mais en tout cas, il est tout vieux, il a les cheveux tout blancs, il s'amuse à faire des courses de bagnole.
Je crois que maintenant, il produit des films et il demande à des femmes.
Et surtout, en fait, tu sens un truc, c'est qu'il est profondément suicidaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il frôle les trucs pour savoir s'il peut crever. Et puis, sa première phrase et qu'il va répéter pendant tout le truc, c'est « Ah, sacré vénère, t'es pas mort. »
C'est
limite pour lui,
souvent.
C'est une punition de rester en vie alors que tous ses acolytes meurent, quoi.
Ouais, on sent qu'il a un petit peu mal vécu sa mise à retraite, parce que ça fait quand même 10 ans que le Batman n'est plus là. Et d'ailleurs, en fait, le fait qu'on ait un Batman plus vieux, ça, c'était une commande spéciale de Miller qui disait, en fait, mais il attaque en 86, il a 30 ans, pile poil. Et il faut savoir que...
Miller
a 30 ans. Il faut savoir que Batman a toujours 29 ans. Et il dit, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, putain, mais le Batman de mon enfance, qui était pour moi toujours plus vieux que moi, plus mature, etc., en fait, il est plus jeune que moi. Donc, il a décidé faire quelqu'un de plus vieux.
Plus 30.
Allez, c'est pareil pour les mecs. Oui, c'est comme Uno, quoi. C'est plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4.
Ceux qui vont réaliser le prochain Shrek, d'ailleurs.
Ouais. Avec 30 ans de plus.
Exactement.
Hey, now.
Et du coup, on voit que Gotham, ça s'est pas amélioré pour autant, hein, parce que le départ du Batman, ça a laissé un grand vide, et on a de nouveaux gangs qui se battent, notamment un gang qui s'appelle les Mutants.
Alors ça, eux, c'est les plus drôles.
Ouais.
Parce c'est que je sais pas à quoi ça ressemblait les années 80 aux États-Unis, mais du coup, t'es censé quand même te dire que c'est le gang le plus flippant du monde, et je les vois apparaître. Faut imaginer qu'ils ont une sorte de bar comme le X-Men là
le Cyclope
c'est à hurler de rire ils sont là genre alors les loubers hein, on veut se taper du Batman et en fait tu comprends que
je suis un voyou moi
les mecs violent dissèquent éventrent tout le monde mais ils sont absolument ridicules
c'est des babtous qui ont un quota de meurtres à perpétrer par jour quoi.
Ils sont ridicules
et encore t'as pas vu The Dark Knight Returns dans les années 90 où le gang c'est le gang du Y2K le bug de l'an 2000 attends c'est alors on se balade
ils sont en tenue flashy et tout c'est...
Et du coup, on a donc ces nouveaux méchants qui sont là, et on va voir.
Les méchants.
Les méchants, ils sont pas très gentils d'ailleurs. Et Harvey Dent va être relâché de l'asile.
Grâce à son psychiatre. Ouais. lui aussi il a une place assez importante dans le bouquin avec les médias. Enfin, c'est, ouais. Ce gars-là est capable de faire dire tout et n'importe quoi à la télé et tout le monde gobe, quoi.
Faut préciser qu'en fait, surtout les médias, ils se posent une vraie question, c'est est-ce qu'il est vraiment devenu gentil, Harvey Dent? Parce qu'il arrête pas de dire ouais, non, je vais bien, tu sais, il montre que ça
regardez pièce, ma petite pièce, c'est pile face,
c'est
tout
ça,
va bien.
Maintenant, tout va bien, je suis bien dans ma tête, le programme fonctionne. Bruce Wayne, même Bruce Wayne, il dit genre en vrai, ouais. J'ai mis tellement
qu'il est stylé.
J'ai mis tellement de pépettes là-dedans, ça a intérêt de marcher. et même, tu sais, ils sont en train de se demander, c'est le Joker aussi, on va pas bientôt le relâcher, il a l'air d'aller plutôt bien, il a plus son sourire, ouais. Tout le monde est bien en fait.
Ouais. Bah, tu vois, finalement, comme la campagne à Fillon, c'est pas parce que tu mets beaucoup d'argent que tu arrives à un truc concret finalement.
Mais sauf que c'est pas toi qui l'as mis l'argent, c'est
et ça. Ben le... et il l'a pas rendu d'ailleurs. On a un autre personnage qui était assez important dans l'univers Batman, qui est le commissaire Gordon, qui lui, pour le coup, approche des 70, et lui qui va passer à la retraite.
Et lui, il a pas eu assez de bad points. Hein. Il est toujours en train de taffer, lui.
D'ailleurs, il va avoir besoin de beaucoup de bad points parce que vu sa consommation de cigares, le cancer des poumons, ça coûte cher. Hein.
Lui, il est un peu comme Batman, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux représentés comme des mecs blancs, cheveux blancs, qui font genre 2 mètres sur 2, c'est des armoires à glace les deux. Et je sais pas, ils ont un truc de genre, tu sais, regarde tout le monde en plissant les yeux, cette ville est une putain dans laquelle je tremble.
On a l'impression qu'il y a que eux qu'ont le passif de Gotham.
Ouais, c'est ça,
tout
le monde va bien, même les mutants ils sont là en mode genre, ouais, trop cool, on va faire du skate. Et eux ils sont là, tu vas faire du skate sur le terrain dans lequel on va violer une gamine.
Ça, c'est un peu les rabat-joie, quoi.
Ouais,
c'est...
mais ils sont
papy, on savait que
c'est marrant parce que
tu
vois, on parlait de Watchmen, c'est l'équivalent de Rorschach en fait.
Oui,
ils sont en mode genre, ils se baladent avec leur impère en mode genre, j'ai vu le vrai visage de cette ville et
sans
qu'elle doit périr. C'est ça.
Mais du coup, ça va. Le vrai visage de cette ville, on va le découvrir, parce que face aux mutants qui progressent et face à Harvey Dent qui va un petit peu partir en couille, et bah Batman, il va reprendre du service. Un Batman beaucoup plus vieux, un Batman qui a beaucoup plus de mal à se battre, mais un Batman qui est de retour et qui va bientôt être accompagné par un nouvel acolyte. Qui est
une nouvelle acolyte.
Eh bien oui, Carrie Kelly, une petite fille de 13 ans.
Oh, on dirait pas, hein, sur les images.
Oh, bah, je savais pas, monsieur l'agent.
Je pensais qu'elle avait 18.
Et c'est ainsi que Batman a chuté.
L'apparition de... Enfin, le retour de Batman, ce que j'aime bien, c'est la scène... Enfin, le passage... Les images, on va dire, tout simplement.
Les dessins.
Les dessins, il y a le Joker qui, d'un coup, va retrouver son sourire démoniaque. Et tu dis qu'en fait, ce livre-là, t'as déjà une atmosphère qui résonne bien par rapport au film de Nolan. Peut-être t'es sombre, t'as un peu la psychose, t'as des meurtres partout,
oui,
c'est
le
bordel.
Il a rien inventé, en fait, Nolan. Il a un peu tout
bouffé.
Cette
atmosphère est quand même super, super bien faite, je trouve, dans le comics. Non, tu trouves pas, toi?
Non, si, c'est bien fait, mais en fait, je comprends pas, parce que... Enfin, moi, je vois pas du tout les scènes homosexuelles qu'il y a dans les films de Nolan, pour le coup, qui sont pas dans le...
Non,
pardon,
je m'en fiche.
De Xavier. Xavier, on va repasser sur l'autre. Xavier de.
Non, mais
Christopher Nolan et Xavier de Nolan.
Ah, c'est ça, voilà. Je vais faire un effort, pardon.
Venez, on explique encore plus la vanne.
Allez!
Parce qu'en fait, on a confondu.
Et du coup, le retour de Batman, ça engendre de nouveaux débats dans les médias sur le bien fondé de son action. On comprend que c'est pas tranché, toujours le sujet de Batman. T'as toujours les pour et toujours les contre, et on va avoir.
Donc avec le... Comment? Avec les nécessaires 12 petites cases de télévision dans chaque page, parce qu'en fait, cette BD entière est composée d'écrans de télévision, quoi.
Enfin, ça t'a plu, ça, d'ailleurs.
Ah, ça m'a énervé! T'imagines pas à quel point.
Ça t'énerve quand tu vois des télévisions de manière générale?
Tout le temps, moi je vous le dis, les mecs, hein. On vit dans une société.
Et le futur, c'est YouTube, attention, les amis, je vous le dis, j'ai d'abord Max.
T'es abonné, d'ailleurs?
YouTube Red, là, je sais pas quoi. Et du coup, Batman va donc finir par s'opposer à nouveau à Dent, parce que lui a vrillé, il est reparti dans la criminalité qu'il avait jusqu'avant. Et dans leur combat, Batman va arracher les bandelettes qui cachent le visage de Dent. Et face à ce visage parfait de Harvey Dent, on va comprendre en fait que si à l'extérieur il est redevenu tout beau, tout comme il faut, la reconstruction faciale a marché, ça n'a été que la goutte d'eau qui a finalement définitivement fait sombrer dans la folie le Harvey Dent, tout comme Batman n'a fait que grandir au sein du Bruce Wayne parce qu'il n'a pas pu sortir pendant 10 ans. Et ça, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je l'ai trouvé sur Internet. C'est une belle explication.
Bah, bizarrement, on n'est pas surpris.
C'était Timmy _ 69 qui expliquait la BD. S'ouvre sur Gordon qui va se faire attaquer, le Gordon, le commissaire de la ville, qui va se faire attaquer par les mutants, et notamment par un mutant très jeune de 17 ans qui attaque à l'arme lourde. Terrasse. Et donc on voit qu'on est face à cette nouvelle menace pour la ville de Gotham qui est les mutants, ce groupe ultra violent et surtout qui est très très bien armé. Ils ont plein d'armes de guerre et ils foutent l'armée.
C'est Mad Max en fait, les gars.
Ouais, c'est,
bah, c'est un mélange de Mad Max c'est et Mad Roubaix, Max quoi, 2000, hein, très clairement.
Ah oui, Jackie Tuning.
Bah, ils ont tous moins de 15 ans, ils sont tous à parler. Ils parlent comme des teubés. Je sais pas si vous avez vu le comme c'est écrit, la manière dont ils parlent, les mutants. Ils parlent comme des teubés.
De toute façon, même en règle générale, je trouve que je sais pas si c'est moi ou alors je suis peut-être un peu con-con. Mais je trouve qu'il y a des problèmes de traduction par moment où t'as beau lire des trucs et t'es en mode genre, mais ça ne veut absolument rien dire ce qui est en train d'être dit. Et je sais pas, ça m'a surpris à plusieurs moments.
Connais-tu la théorie du ruissellement?
Mais ça ne veut rien dire.
Non, mais moi je regardais les images. Hein, moi.
C'est quoi le rapport? Non, mais je comprenais pas. Il y a plusieurs moments où je me disais, mais mon Dieu, mais c'est horriblement mal écrit. Mais mettez une virgule quelque part parce que je suis en train de m'étouffer quoi.
Bah, il est pas reconnu pour sa qualité. Il est reconnu,
ah non.
Il
alors, est... tu sais qu'apparemment, il aurait inventé la police comics sur MS. Et ça, c'est pas une blague. Hein.
Bah, c'est un peu un mythe qui circule. Mais je me demande si c'est pas Alan Moore. C'est entre l'un des deux. Je sais pas lequel. Mais oui, effectivement, il y en a un à qui on doit cette horreur, qui est la police comics sur MS. Et donc, Batman va commencer à enquêter sur les mutants. Il va se rendre compte, d'un côté, que t'as l'armée. En gros, t'as un général de l'armée qui revend ses armes de guerre aux mutants. Permet qu'il soit autant équipé. Et on va parallèlement se rendre compte que Gordon va être remplacé par une nouvelle commissaire de police bien plus jeune et opposée à Batman surtout. Mm. Hein, la commissaire, elle s'appelle Helen Yandel, qui a décidé son premier move, ce sera d'émettre un
truc d'arrêt contre Batman.
Ouais, un truc d'arrêt, exactement. Toi qui connais un peu plus la justice, Simon, maintenant, c'est comment ça s'appelle? C'est un mandat d'arrêt.
Mandat
c'est
d'arrêt,
ça
d'arrêt, oui.
Et Mandanda, tu confonds.
Ah, avec l'aide de Robin, Batman va parvenir à retrouver le chef des mutants et va s'engager une tape qui va. Alors, Gaspard, comment ça se passe la tape pour Batman?
Ça se passe plutôt mal. Plutôt mal parce que. Alors, ça, c'est un truc que j'ai bien aimé par exemple. C'est-à-dire que pendant toute la BD, t'as des codes couleurs qui sont instaurés rapidement pour te montrer qu'en fait, ils se parlent tous beaucoup dans leur tête.
Ouais. Et surtout lui.
Et oui, et surtout pendant les fights ou pendant les trucs d'action. Ouais. Alors, je sais pas, faut imaginer.
Est-ce que j'ai acheté le pain?
Non, ça, faut.
Le Batpain. Alfred,
c'était un film absolument
café.
Horrible, mais tu vois, dans le Sherlock Holmes de Guy Ritchie, tu sais, il se battait en disant je vais lui foutre une droite à gauche. Là, il se dit la même chose, en fait, Batman, mais ou Robin, ou un certain Clark qu'on verra plus tard. Ouais. Ils se disent tous ce genre de trucs, et Batman, il arrête pas de se dire je vais lui démonter le mutant. Puis il fait dis donc, il commence à être plutôt fort, le mutant. Et ben, dis donc, je vais m'évanouir.
Ok, en fait,
il se fait, mais laminer la gueule, quoi.
Il se fait un petit peu exploser la tronche.
Il accepte le combat à la loyale, il arrive quand même à la base avec son putain de char.
Oui, putain.
Tuné pas possible, genre sa Batmobile version 3.
Il arrive au milieu d'une décharge.
Attention derrière.
Attention, je sors.
Les bat porte-clés. Hop là. Et ça se déroule tellement mal d'ailleurs qu'il se fait casser la gueule et humilier devant les mutants. Il ne doit son salut qu'à
Robin.
Bah à Robin, oui, son fidèle Robin.
Ouais, mais ça,
fidèle
pas, Robin.
Ouais, mais pas encore fidèle parce que à la base c'était pas prévu qu'elle soit là. Lui, il l'avait pas encore.
Ah oui, il la connaît
enrôlé,
pas.
Hein.
Elle débarque, ça. Ah, on est un peu vite.
Ses petits chaussons, faisait hop, hop, hop. Oh, il doit merde.
Non, elle débarque, elle le sauve et en fait c'est comme ça que lui rapidement il se dit bah en fait j'ai reconnu en elle
Jason.
Force.
Jason.
Ah non, mon nom c'est Karim.
Oh, Jason.
J'ai 13 ans.
Jason, on s'en fout, on a déjà dit.
Non, et en fait il se dit putain, elle est extraordinaire, elle a plein de force, de courage. Elle a de quoi faire Robin en fait.
Ouais.
Et du coup, elle la sauve. Enfin, elle le sauve, pardon.
Est-ce que tu saignes?
Bah oui, enfin, mais je.
Mais non, pas comme ça, mais qu'il est con! Putain!
Du coup, Robin le ramène d'autres Batman dans la Batcave. Il se fait soigner par Alfred et on comprend là que c'est un peu plus dur pour lui, hein, effectivement, la vie.
Alfred qui savait pas, lorsqu'il s'est engagé il y a 70 ans dans cette famille, qu'il allait devenir ingénieur, chirurgien, cuisinier.
C'était un boulot d'été, c'était un summer job pour lui.
Il est en CDD renouvelé depuis des mois.
Non, il est auto-entrepreneur. Il a jamais rien signé. Bah, Batman, c'est l'immigré au fond de la cave qui.
On vieillit Batman plus 30 ans à coup de cartouno. Par contre, Alfred, il a toujours 70 piges, quoi. Hein. Ouais, normalement, il y a une canne ou un fauteuil roulant. Hein. Il peut plus rien réparer.
Il a peut-être des enfants qui deviennent les futurs Alfred. En fait, ils sont Alfred de père en fils.
Le gamin naît, il est
Alfred
déjà
dans la Batcave.
Il est déjà obligé d'aller servir. Tu sors pas de la Batcave, toi.
Mais
tu t'occupes des Batchiottes. T'as les petites mains, c'est parfait. Donc pendant ce temps-là, le leader des mutants va être.
Poser une Batcrotte qui bouge
les canalisations.
Tiens, une Bat Ventouse.
Bat canard WC, hop là. Et du coup, le leader des mutants qui appréhendait va en taule, et là il va se passer un petit événement en prison parce qu'il dit je veux négocier avec le maire de la ville.
Et en fait, le négocier, c'est lui arracher la jugulaire.
C'est une méthode de négociation
avec deux dents.
Choc qu'on apprend dans le Art of the Deal de Trump, par exemple. Mais ça marche bien, hein. Parce que tout le monde a peur de lui, quoi.
Bah, en fait, du coup, il arrive à piéger le maire.
Il le tue.
Genre, ce que Gordon, il dit au début, genre, je sens qu'il va se passer quelque chose, je vous laisse, maire, avec l'homme le plus dangereux de la ville. Puis il revient dans la salle, et il y a le.
Il s'est passé quelque chose.
La salle est recouverte de sang.
Il met ses gants.
Ah, bah, j'en étais sûr.
Vous êtes pas très gentil, hein. Oh, non, mais.
Je l'avais dit qu'il le ferait.
Et du coup, Gordon et Batman vont échafauder un plan pour vaincre finalement le chef des mutants.
Il paraît hyper malin le plan. Hein. Enfin, c'est échafauder. Non, laisse la porte ouverte. Quoi. Et puis tu lui dis de passer. Enfin, il verra qu'il passera que par les égouts.
Par les bat-égouts.
Il a juste collé un sticker avec marqué bat-égouts. Vous pouvez pas faire ça sur tous les trucs. C'est bat-enfant. C'est bien. Hop là. Bat-verre, bat-table. Monsieur, il va falloir sortir, s'il vous plaît. Ah, batte ta gueule.
Non, mais du coup, là, Batman, il a un plan assez malin. Ouais. Batman, il sait qu'il a un talent, c'est qu'il est lent, en fait, et faible. Donc, en fait, il...
c'est un talent.
Et il le remet à son avantage. C'est-à-dire qu'il dit, bah, on va se battre dans la boue.
Comme ça, je serai encore plus lent.
Le chef des mutants, en fait, sort dans la boue. Et il y a eu tout un truc qui a été mis en place. On va passer. Mais en gros, il y a tous les mutants de la ville qui attendent dans un terrain vague en disant, bah, tiens, on est censé faire la bat-teuf, quoi.
Et débarque,
en fait, le chef des mutants qui comprend pas ce qu'il fait là. Et en fait, sort de la boue, Batman. Et ils se battent les deux, et en fait, dans la boue, le mec est complètement ralenti, et en fait, Batman, bah, pour une fois, lui éclate la gueule, quoi.
Je mettrais bien la voix de Rambo sur le chef des mutants. Ça lui irait bien.
Adrien. Et d'ailleurs, c'est un moment où on voit que Batman vrille un peu, parce que normalement, Batman, sa règle, c'est de ne pas tuer, c'est de ne pas trop casser les gens. Mm. Et là, il dit, je suis obligé, en fait, il le paralyse en lui brisant finalement les jambes pour que le mec soit définitivement... Tu vois, pour faire un message un petit peu. Ça marche d'ailleurs tellement bien que les mutants se démantèlent, le groupe n'existe plus, et tu vas avoir... et tu vas avoir une partie même des mutants qui vont rejoindre un nouveau crew qui va s'appeler les Sons of Batman, ouais, SOB.
C'est des teubés, enfin je veux dire, c'est tellement des teubés qui sont capables, enfin ils vont se rallier à 3 ou 4 clans différents, les uns à la suite des autres, quoi.
D'habitude, c'est les Français qui font ça.
Ouais, grave.
Donc on va voir que même si Batman a gagné sa victoire contre les mutants, il va bientôt avoir des problèmes avec les SOB. Et puisque les emmerdes volent toujours en escadrille, c'est le meilleur ennemi de Batman, le Joker, qui lui est sorti de son état catatonique parce que 10 ans sans Batman, ça l'avait un petit peu
calmé.
Ça l'avait bouleversé. Donc il était à Arkham Asylum, et là, en voyant Batman revenir sur le devant de la scène, ça le réveille. Ça va aussi réveiller le psychologue, qui bizarrement c'est le même que Harvey Dent, qui se dit tiens, je vais pouvoir prouver que j'ai guéri le Joker.
Ce que ça va pas réveiller, c'est le cinéma, hein. Et la mise en scène et le scénario. Parce que moi, allez, et puis de la reposer.
Mais vas-y. Alors là, moi, je trouve que t'es dur parce qu'on peut parler rapidement de la mise en scène.
Mais non, mais je parle pas de ça. Je parle. Bon, allez.
Ah le film. Ah le film. Ah oui.
Bon, parle. Bon,
vas-y. Jamais, j'oserais m'attaquer à un truc que t'aimes bien. Toi.
Non, fais ton chapitre.
Lis ton papier. Voilà. Lis le latte. Qu'est-ce que tu voulais dire déjà?
Tu m'entends, Todd Phillips? Bah si tu m'entends, va.
C'est bon. Ok, ça va. Il est beaucoup plus calme maintenant. Mais ça te fait du bien. T'as raison. Vent. Et en parallèle un petit peu de Joker qui se réveille, on voit que dans la ville c'est de plus en plus la merde à cause des SOBs, les anciens mutants devenus s'appelant eux-mêmes les fils de Batman, qui foutent un peu la merde, c'est-à-dire qu'ils disent apporter la justice, mais c'est du genre apporter la justice, genre tu as traversé en dehors des clous, salope,
je vais t'éviscérer.
Au moins elle a retenu la leçon.
Mais non, donc... mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, depuis le début, on peut dire que c'était pas une BD de droite, mais c'est-à-dire qu'en gros, on n'arrête pas de montrer que, bah, en fait, ils ont peut-être le droit aussi de faire la justice eux-mêmes parce que, entre guillemets, le gouvernement est nul et laisse tout faire, et entre guillemets, Batman y revient parce que s'il le fait pas, bah, en fait, personne va le faire et la ville va encore grouiller de violeurs, tout ça, qu'on remet en liberté. C'était le coup de Dent et du Joker qu'on remet en liberté. Mais là, à la limite, c'est assez malin, c'est qu'ils commencent à mettre la critique du fait que, bah, en fait, on peut pas se faire justice nous-mêmes. Et on va même, il me semble
pas laisser ça à n'importe qui.
On va commencer à introduire un personnage qui va vraiment arriver dans le dernier livre.
Ouais.
Donc je peux, c'est pas un spoiler, mais c'est qu'en gros, le gouvernement est en train de dire à Clark Kent, aka Superman.
D'ailleurs, fun fact, son nom n'est jamais, on ne dit jamais Superman dans la BD.
Ah,
il est uniquement appelé Clark.
Et puis il est dessiné, il y a un grand Kent. S. Quand le drapeau américain se transforme en S,
c'est
ça, c'est super bien fait.
Super bien fait.
Et du coup, en fait, Clark, qui bosse du coup pour le gouvernement, et on est en train de dire enfin, le gouvernement américain est en train de dire à Superman, écoute, va falloir que tu y ailles parce que c'est même pas genre, il faut arrêter les méchants, faut arrêter le mec qui se prend pour la justice.
C'est
là.
Ça. Il faut en fait, il faut arrêter qu'on se foute de notre gueule.
C'est
nous,
Superman
quoi.
Qui le fait, c'est pas Nixon.
Ouais. Et c'est d'ailleurs, d'ailleurs c'est marrant, le président Cénix, c'est Reagan, pardon, dans la BD, il est dessiné sous les traits de Reagan, et c'est le côté, ce que essaie de dénoncer Miller, hein, c'est quand il est encore un petit peu libertaire avant de passer vraiment full extrême droite, c'est le côté...
vous mêlez de notre vie, quoi.
Voilà, vous mêlez de notre vie, on pourrait faire mieux que vous, etc. Mm. Et le Joker, donc en
parallèle... Je mets la crème dans les carbos si je veux, enfin des trucs comme ça, quoi.
Il n'y a pas de... Et tu parlais de Superman, c'est parce qu'il y a aussi également des tensions, ça viendra un peu plus dans le livre 4, mais des tensions entre les États-Unis et l'URSS, avec une menace sur une île fictive qui s'appelle Corto Maltese.
Complètement fictionnel, c'est jamais arrivé. Hein.
Non, jamais.
Pas l'histoire.
Non. L'île de Corto Maltese n'existe pas. Et le Joker donc va faire son grand retour sur un plateau télé. Tiens, tu veux peut-être parler du film de Joker,
je crois. Non, ça me fait...
Si tu m'entends, toi, Philippe, j'ai plein de trucs à dire. Tu peux m'écrire au 06.
Et du coup, oui, sur le plateau télé, le Joker, il va faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire il va commettre un meurtre de masse. Voilà, il assassine absolument tout
avec
le monde.
Avec des petites poupées qui volent.
Oui, trop mignon. Ça. Et tout le monde y rigole.
Mais ça, j'avoue, c'est le côté complètement pareil parce que t'as en même temps genre j'ai vu la ville et les putes et t'as en même temps wouhou la bombe qui vole. C'est un peu bizarre.
je vais tuer les enfants.
C'est Clini.
Et donc s'engage une poursuite dans la ville entre Batman et le Joker qui va mener en gros le Batman auprès d'ailleurs d'un autre ancien personnage qui est Catwoman. Catwoman, elle a un peu de mal.
Un gros bisou là, un gros smack avec son rouge à lèvres, hyper, je sais pas, il la rend folle quoi.
Ouais, bah en fait, oui, en gros, voilà, le Joker la rend, il la rend un peu folle, mais il se sert de ses escortes pour foutre la merde dans la ville. En gros, le Joker fout un peu la merde partout dans la ville, il la fout notamment avec Catwoman. Donc on comprend que c'est un petit peu le love effect de Batman depuis longtemps,
en fait,
qu'ils ont jamais fini ensemble.
Quand t'as cette scène là, quand t'as le Joker qui voit la fille, tu dis ok, c'est une prostituée, enfin c'est elle gère tout le trafic. Puis tu reviens sur cette page là quand tu dis bah attends, mais Batman l'embrasse après. Tu te dis what.
Bah ouais, mais en fait c'est ça qui est aussi.
Après Batman il se retourne vers Alfred et
il l'embrasse aussi. Il se peut embrasser tout le monde.
Ah mais arrêtez, putain.
Il embrasse le Joker, ça le calme tout de suite d'ailleurs, il aime pas du tout.
Le Batman se retourne.
Le Bat retour. Et ça va se terminer leur course poursuite à la fête foraine.
Eh bah oui, hein.
Ah bah oui, hein.
Du coup le Batman il va poursuivre le Joker qui est en train de massacrer tout le monde.
Et la poursuite
et
vraiment...
avoir à nouveau un attentat de masse dans une fête foraine.
Poursuite est longue parce qu'il se parle encore beaucoup à lui-même.
Ouais, ouais.
Il réfléchit. Oh, il est rapide ce con.
Est-ce que j'adore, c'est que.
Avec le déambulateur, c'est pas pratique, putain.
C'est pas rapide. Et c'est un truc que tu vois dans toute la BD, à nouveau avec les petites capsules de télévision, c'est que, genre, les mecs, ils ont eu le temps de faire une émission spéciale sur chaque rebondissement de l'affaire, quoi. Et puis, il y a un flic qui tombe, ils font en mode émission spéciale, hein, il vient de tomber.
Ouais, puis
j'ai bobo.
Pendant ce temps-là, t'as la nouvelle enquêtrice, la nouvelle commissaire, qui arrête pas du courir aussi, donc ça se fout aussi de la gueule de la police,
c'est
quoi.
Ça, ouais.
Bah, ça se fout clairement de la gueule de la police.
Je dirais comme OSS, c'est quand ils sortent. Quand ils sortent de l'hôpital là, et qu'ils sont avec le déambulateur, tu crois que ça va super vite et après hop, tu dézoomes et là, tu les vois sur le déambulateur.
Exactement.
Et c'est un petit peu ça quoi. C'est Batman qui est en pleine course poursuite. Alfred, et caca, vite, et fais caca,
caca,
vite, venez vite. Et donc, au sein de la fête foraine, Robin d'un côté et Batman de l'autre vont commencer à se battre contre Joker et ses
sbires.
Et ses sbires, exactement, c'est le terme.
Un peu de tout quoi.
Et ça, c'est bien fait quand même. À chaque fois, le montage alterné parce qu'ils vont le faire même après avec. Beaucoup plus d'histoires différentes pendant tout le roman, on peut le dire. Ouais. Mais c'est la manière dont il éclate d'un coup les récits, il les rechoppe. Ça, faut avouer que le mec est très fort.
Graphiquement, c'est super.
Ouais.
C'est un truc alors qu'il maîtrise là, et en fait, qu'on lui reprochera dans les bouquins d'après, mais dans toutes ses œuvres, Batman.
Lorsqu'il va faire 64 narrations
voilà.
En 3 pages.
Et beaucoup qui sont des narrations de jumeaux, donc avec des histoires parallèles, c'est super compliqué.
Pas dans
pas
la même langue,
non,
c'est fou.
Voilà,
Seven Sisters.
Oh non, mais c'est un enfer. Et puis, il a fait l'auberge espagnole, adopté en BD, ça marche pas du tout.
J'ai vu le vrai visage de cette ville, Barcelona.
Il parle le catalan. Et donc Robin de son côté va accidentellement tuer le sbire de Joker. Par contre Batman de son côté il va choper le Joker et là en fait
et ce qui est très mignon c'est qu'il le chope dans la grotte aux amours.
Oui.
Et c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'à nouveau comme tu disais tout à l'heure le Joker s'est réveillé au moment où le Batman est réapparu et là bah, Batman va vraiment peut-être passer de l'autre côté et parce qu'en fait les deux c'est les mêmes
du côté gay de la
non mais ça c'est que c'est une des rares fois où on va voir le Joker en fait à la fin complètement allongé affalé et qui est affalé en même temps blessé Batman ouais. Il y a une sorte de à chaque fois de déco entre les deux
il y a pas de Batman sans Joker et inversement
ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de Batman sans Joker, à tel point que le Joker, en gros, son dernier grand plan, c'est de faire accuser Batman de son meurtre. C'est-à-dire que Batman se dit, est-ce que je vais... Tout au long, là, tu parles de Simon, de ce qu'il se dit dans sa tête quand il court, il se dit, est-ce que je vais, cette fois-ci, réussir à franchir le pas pour éviter toutes ces morts? Parce qu'en fait, là, c'est vraiment, c'est la dernière de Joker où il a assassiné tout un plateau télé. À la County Fair, là, il a assassiné une des quinzaine gamins, de Boy Scouts. Il tire sur tout le monde. Donc, vraiment, le mec tue à tout va. Et Batman dit, en fait, il n'y a qu'un moyen, c'est il faut que je le tue. Mais il n'arrive pas, il ne s'y résout pas. Et au dernier moment, il n'arrive pas à tuer Joker. Et c'est Joker qui se suicide en se tournant la tête.
Bah, c'est là où il y a quand même genre Batman qui doit peser, à mon avis, 327 kilos, qui est assis sur le Joker en train de lui tordre les vertèbres. Et après, Batman dit, ah oh bah,
bouge la tête.
Il a trop bougé la tête, il s'est cassé le dos, ce con.
Tire sur mon doigt.
Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, bon, en même temps, il a quand même fait beaucoup, Batman.
Monsieur Wayne, vous nous l'avez fait il y a déjà des ans avec le bébé secoué, là. Non, ça marche pas, ça, monsieur Wayne.
Moi, j'aime bien le lire comme quoi, bah, Batman, le seul meurtre qu'il commet, c'est le Joker.
Ouais.
Il y a
moi,
un truc
moi,
comme
je
on dit,
un de,
c'est son ombre et vraiment c'est il y a un truc.
Moi j'aime bien justement le lire comme il ne franchit entre guillemets jamais ça.
Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand
en fait,
même.
Ce qui est, mais non mais ce qui est intéressant c'est que t'as quand même le Joker qui lui c'est vraiment le meilleur coup de Joker. Ouais. C'est-à-dire que sa plus grande blague c'est de lui coller un meurtre au dos, son propre meurtre. Et on sait qu'une seule personne peut tuer Joker, c'est Batman. Donc il y a un vrai.
Et le fun fact c'est que dans le Dark Knight de Nolan. À l'origine, en fait, à la fin, Batman butait le Joker. Et le problème, c'est que bah, pendant la fin du tournage et la sortie et le montage,
Heath Ledger s'est buté lui-même.
Heath Ledger est mort, en fait. Et donc, Nolan s'est dit, je ne peux pas tuer mon acteur au cinéma alors qu'il vient de mourir. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin du
donc,
Dark Knight de Nolan, il va chuter, il est rattrapé et en fait, ça coupe.
On voit
pas ce qui se passe après, en fait. Et alors qu'en réalité, bah, il avait prévu Squeak. Et c'est pour ça que c'était censé être vraiment le film qui no turning back après ça quoi. On terminait sur Batman meurtrier.
Putain, ouais, merde, c'est con.
Mais de toute façon, après.
Mais Heath Ledger a encore tout fait foirer.
Ouais,
alors on sent qu'il y a lui, mais bon.
Petite chose. Égoïste, hein. Mais si ça a été compliqué pour Batman avec le Joker, ça risque de l'être encore plus face à Superman. L'actualité internationale va rattraper la ville de Gotham, puisque le coronavirus. Et oui, le coronavirus.
Ah, je me demandais si on allait faire une vanne.
Ah, on peut se le permettre, hein.
Ah,
c'est
ouais.
Les Chinois et les Italiens qui clament, c'est pas nous. Puisque la bombe, l'URSS, va balancer un gros missile thermonucléaire sur l'île de Corto Maltese. Superman va quand même réussir.
Il y a juste Corto Maltese tout seul sur son île. Je sais pas pourquoi c'est lui qui va payer pour tout le reste de l'humanité.
Mais qu'est-ce que
j'ai chier.
Le mec, il est tranquille, il fait chier personne.
Et il y a sa femme à côté. Ah bah tu vois, je t'avais dit que t'avais une mauvaise idée de venir sur cette île.
Oh putain, mais tuez-moi,
allez,
vas-y. Ferme ta gueule.
Balance la bombe. Et là, qui est-ce qui arrête la bombe? Superman.
Ah putain, oh,
ouais.
Et du coup, Superman arrête la bombe. D'ailleurs, dans un moment qui est assez cool parce qu'on voit que la bombe, il l'a fait exploser loin, mais il est quand même dans le champ d'action de la bombe.
Cher, ouais.
Il prend bien cher, on le voit, il est tout décrépit.
Il y a beaucoup de cases dédiées à
ouais,
ça.
Exactement.
Et les couleurs sont
hyper
rouge, rose,
ouais.
Violet.
Superman qui se recompose.
En fait,
qui
se recompose un petit peu.
Déjà, et ouais.
Très marrant de faire également un parallèle avec Watchmen, avec la scène de la création de Dr. Manhattan,
c'est
qui
vrai.
Est un homme qui a été désintégré par l'atome et qui se recompose de lui-même. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Et un autre message que j'avais lu, c'est que Superman, donc s'il est Superman, c'est parce que sur la Terre, il reçoit les rayons du soleil, blablabla. Et en gros, il y a tout un, il y a plein de gens qui voient un message écologiste parce que le Superman, pour se régénérer là dans ses cases,
c'est touchante.
C'est les plantes qui lui filent son leur pouvoir.
Et puis il lui dit je te remercie, je te serai fidèle, un truc comme
ça. Il dit. Non mais ce qui est ouf, c'est on disait et encore en antenne tous les échos qu'il y a entre cela et cette BD et ce roman et les films de Nolan. Mais à nouveau, le coup de la bombe nucléaire qu'on arrache au dernier moment de sa cible pour la ramener au loin dans l'horizon et filmer au loin le dernier, le 3.
Ça, c'est Angers Démons, ça.
Et comme dans c'est comme dans juste la fin du monde, c'est-à-dire que c'est... Ah non, je confonds encore. Mais ce que je veux dire, c'est que...
C'est la fin du film.
C'est la vraie fin du monde. Ça aurait été plus de gueule si ça terminait comme ça, d'ailleurs.
Du coup, il y a Vincent Cassel qui rentre.
Je vais mourir du sida. Ouais, passe la bombe, t'as avant, mon gars. Hey. Et en parallèle de ça, donc, la bombe a quand même créé plutôt un peu de la merde dans Gotham, puisque ça a coupé tout ce qui est électronique et désintégré par la bombe. Et ça
Plus
de médias.
Plus de top 1 sur Fortnite.
Exactement.
Plus de bas de signal.
Aïe, aïe, aïe.
Plus rien. Plus de bas de Pornhub.
Ah, putain. Plus de soleil non plus, donc la ville est plongée dans le chaos, dans les ténèbres. C'est vraiment, ça va devenir la ville du Dark Knight, hein, clairement. Et t'as même une scène qui est assez incroyable, c'est que t'as un avion
qui rentre dans,
les Twin Towers de Gotham, et là t'as
quand même... c'est pas dans les Twin Towers.
Non, c'est juste une tour.
C'est dans une tour, genre ils te font comprendre un peu c'est l'Empire State Building, plus ou moins.
Mais c'est super fort.
Surtout au début, te fait l'ombre de l'avion qui passe au-dessus de la ville, et les gens qui regardent en l'air, terrifiés.
Ouais. Sachant que derrière les dérives d'extrême droite un petit peu
viennent complètement de lui
de
dit
ça,
qu'il était dans les rues de New York à ce moment là
Il dit ça et ça l'a beaucoup marqué. On en parlera, mais il a dit des trucs sur les musulmans et sur le absolument abominable
on
sent que ça l'a marqué, en tout cas.
Je pense qu'il faut pas voir non plus dans Dark Knight Returns genre un truc prophétique, le mec a tout deviné, parce que dans ce cas là on va se retrouver avec des bombes en forme de poupées,
c'est ça,
et
puis des gens qui ont des sons chelous avec, avec des rouges à lèvres qui peuvent te rendre fou.
On va se retrouver avec des bombes en forme de bim bam boum et tout ça. Et puis l'horreur. Et du coup, Batman en fait va prendre un petit peu face à des services de l'État qui n'assurent plus du tout leurs fonctions. Il n'y a plus les pompiers, il n'y a plus les policiers, etc.
Mais il y a de nouveau les médias.
Il y a Batman qui prend un peu le relais avec les fils de Batman. Et on comprend que c'est ce qui va amener Superman à vouloir casser la gueule de Batman, puisque, comme tu disais, Gaspard, l'État...
On comprend aussi que la ville, en fait, est partie en cacahuète. Les gens s'entretuent. Il y a un petit personnage qui est assez rigolo, qui revient plusieurs fois dans la BD, d'un type genre égoïste possible, qui arrête pas de dire genre, évidemment que j'ai tiré sur ce monsieur, il allait me piquer mes haricots verts, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, vous auriez fait pareil.
Je paye mes impôts, moi, merde.
Mais c'est ça, il arrête pas de répéter ça.
Et puis en bute 2-3, quoi.
Ouais, et puis il dit, bon, la personne était noire, vous auriez fait pareil. Des trucs où tu dis, mon dieu, et parfois tu te demandes, genre, Miller, est-ce qu'il le pense vraiment ou pas. Mais ce que
c'est marrant d'ailleurs que ce personnage ait les mêmes traits que Miller.
Ouais. Il s'appelle FM. Mais ce que je veux dire, c'est que, en effet, comme tu disais, Batman, avec les sobs, là, ils vont décider de remettre un peu d'ordre dans cette ville, selon l'autorité de Batman.
Voilà, c'est...
Mais, et donc, le gouvernement, c'est lui qui
dit... Ouais, selon l'autorité de Batman, mais pour l'instant, il n'y a toujours personne qui dit rien quand on interviewe le président.
Mais elle est là, l'ambiguïté, entre guillemets, certes, il le fait, et il remet les choses en place. Mais sauf que le gouvernement américain, c'est là où Miller il dit en mode genre, laissez-nous faire les trucs, vous voyez qu'on les fait bien.
Le président dit non, mais c'est le gouverneur qui doit décider. Le gouverneur dit non, mais c'est au maire. Le maire il dit non, mais c'est carrément.
Pendant que la police dit
c'est
non,
la police,
il faut qu'on arrête
Batman. On est sur le coup.
Et donc, on envoie Superman casser la gueule à Batman. Et là, on va avoir un moment assez mythologique, très clairement. C'est un moment hyper fondateur de la BD de Batman, ça avait été jamais fait. C'est Batman contre Superman.
Deux dieux qui se battent.
Mais alors un homme contre un dieu, en fait, c'est ça qui est... Donc Batman, pour se préparer, il se met grosse armure et tout, et en fait on parlait des films de Xavier Dolan, on peut parler des films de merde de Zack Snyder, Batman contre Superman, où toute la scène où ils se battent, Superman contre Batman, c'est texto la scène de ce livre.
Et je préfère le bouquin.
Putain, c'est quand même mieux
fait. C'est plus impressionnant comme là. C'est-à-dire que là il y a tout un truc, surtout qu'à nouveau on disait que depuis le début c'était genre... Batman qui se parlait à lui-même, là c'est vraiment Batman qui interpelle Superman et qui lui dit parce qu'il a tout un truc que j'ai pas très bien compris, mais entre guillemets il s'accroche à l'énergie pour... Est-ce qu'il est aussi aidé par Green Arrow là, pour en gros,
Green Arrow, de la kryptonite,
détruire Superman. Et genre vraiment il se retrouve par le pied sur la gueule, et c'est à nouveau en posant c'est pas Miller qui vraiment écrase le gouvernement et qui dit maintenant je vais te montrer, je suis le seul mec qui t'ait jamais battu, et c'est le truc qu'il dit. Il dit, voilà, je suis le seul, je veux que tu te souviennes toute ta vie qu'il y a un mec qui t'a battu et c'est moi.
Ouais. Et l'année qui suit, Miller a eu des contrôles du fisc toute l'année.
Non, et surtout, Batman, en fait, il avait un peu prévu le coup parce qu'il s'est dit, ok, je vais calmer le gouvernement américain, je vais calmer Clark, mais surtout, maintenant que j'ai remis tout en truc, je vais assurer mon départ.
Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il a fait son dernier show qui était de, j'ai été celui qui a quand même battu Superman, mais en fait, c'est, il ne peut le battre qu'une fois, c'est-à-dire que Superman est invincible de toute façon, donc il ne le battra qu'une fois, et donc il faut qu'il ait une porte de sortie pour tout le monde, et la porte de sortie, c'est que Batman meurt.
C'est un infarctus.
Voilà, donc il fait un infarctus du myocarde, il passe 9 mois à baveler et tout, c'est terrible, la décrépitude d'un homme.
Je suis celui qui a battu le Superman.
Ouais, ben moi je suis celui qui va battre celui qui a battu Superman, t'as juste un mec qui appuie sur le tube et il meurt.
Et du coup, c'est la fin, Batman est mort. Alfred meurt aussi.
Après avoir fait exploser le manoir Wayne.
Exactement. Ouais. Arrive alors l'enterrement de Bruce Wayne, parce qu'en fait, du coup, est révélé le fait que Bruce Wayne était Batman.
Qui fait exploser le manoir Wayne. Ah, mais c'était dans le plan. Oui, c'était dans le plan. Oui. Ça fait pas genre trois mois que le mec en peut plus, qu'il veut juste faire péter le truc.
Le gars avait déjà planté la dynamite depuis 10 ans. Trois générations.
Je vais le faire. Ce soir, je le fais, je te dis.
Pourquoi tu parles de plan?
C'était dans le plan.
Parce qu'en fait, du coup, Batman n'est pas mort.
Oui.
Et qui est-ce qui le remarque? C'est Superman au cimetière, en fait, qui capte le fait que
le
battement du cœur de Batman, Bruce Wayne, reprend 6 pieds sous terre, parce qu'en fait, Batman n'est pas dans son cercueil.
Enfin, si, il est dans son cercueil, mais en gros, il a juste arrêté.
Il va être déterré par Robin, parce qu'en fait, on comprend que c'est un truc qu'il a mis en place avec la jeune Robin. Et en fait, maintenant, Batman, avec les sobs, s'apprête à rebâtir un monde nouveau.
Voilà, c'est ça, un nouveau Gotham où lui n'apparaîtra plus. Mais d'ailleurs, cette fin.
Mais comme quoi, en fait, il donne quand même le pouvoir aux anciens mutants, quoi.
Exactement. Ouais, c'est un peu chelou, hein. C'est un peu chelou parce que c'est quand même. Ça fait un peu la part belle aux milices, tu vois.
Carrément.
C'est quand même un peu bizarre, quoi. Mais bon, c'est l'œuvre de Frank Miller, de toute façon. C'est toujours un petit peu bizarre. C'était notre petit épisode sur Batman, Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller. Je vais me tourner vers acolytes. Comment ?
Notre Bat épisode.
Je vais me tourner vers mes Bat coéquipiers pour leur demander ce qu'ils en ont Bat pensé. Bat Simon.
Bat merci. Une œuvre, je pense, majeure dans les Batman, dans les comics. Graphiquement, c'est super bien fait. On voit que ce comics-là a permis énormément d'inspiration pour les trois Batman de Dolan, pour inspirer aussi certaines daubes, notamment Batman vs Superman. Ça fait partie de la culture du comics. Je pense que on a le plaisir d'avoir des super dessins. On a un vrai travail au niveau des couleurs. Fait. On a quand même trois personnes qui planchent sur ce comic. Vraiment, non, scénario.
Comme Gad Elmaleh, pardon.
c'est une personne qui planche et c'est Gad Elmaleh qui récupère.
Non, le scénario se tient super bien. Ça fait vraiment plaisir. C'est le super héros, on va dire, que je préférais dans mon enfance. Donc,
pareil.
Franchement, très bien et. Ça fait vraiment plaisir de regarder ça, quoi. Ouais, franchement, c'est un truc qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, quoi.
C'est un truc qu'il faut voir. Enfin, je trouve que le scénario, pour le coup, moi, m'a beaucoup plu, mais c'est d'un point de vue graphique. Je vous encourage vraiment à aller lire Batman et surtout à aller lire Sin City. Bon, ça fera peut-être partie des recommandations, mais l'art graphique de Miller, c'est assez canon, hein.
Et
c'est très beau.
Ouais, et puis l'art graphique, on voit qu'il a quand même pas juste pris le Batman tel qu'il était, comme je disais hors antenne, c'est que, comme il expliquait Frank Miller, le Batman d'avant, c'était celui qui avait tout le temps 29 piges, donc le gars baraqué, hyper musclé, hyper agile.
Alors que là, il est tout frêle. Hein.
Ouais, c'est un Baptou. Non, c'est un Baptou. Il a fait un gros travail sur comment bien faire voir visuellement, graphiquement, que Batman, maintenant, ça y est, il a 55 piges, il est fatigué, il est lent, donc il a vraiment fait un énorme travail de pour sur certaines scènes, sur certains moments quand il est parce qu'il est toujours quand même en train de se balader sur des buildings, hein, donc
tu sens
qu'il se base plus sur son expérience plutôt que sur son physique, et c'est vraiment un vrai travail. Tu sens le gros travail de recherche qu'il y a derrière, quoi.
C'est bien, tu le dis bien, parce que en fait on ressent que l'âge du mec. Donc c'est encore une fois, moi j'applaudis le travail graphique, je trouve que c'est juste magnifique ce qu'il a fait là-dessus. Gaspard?
Moi, je suis d'accord avec vous. Nouveau, je répète que je suis pas un grand passionné de comics, donc je pourrais pas non plus débattre de son impact dans le monde littéraire et de la BD.
Il a un gros impact. Hein. C'est une légende, Frank Miller, de malgré tout. Alors malgré tout ce qu'on a un petit peu dit sur ses déboires, ses dérives, etc. C'est aujourd'hui, notamment grâce à lui et à Alan Moore, c'est deux personnes qui ont été extrêmement indépendantes dans l'écriture des comics et très importante pour le renouveau du genre, quoi.
Moi je suis plus impressionné par Watchmen et que par ça, parce que bon, déjà je trouve que Watchmen est bien plus complexe et le scénario de Watchmen par exemple et l'histoire m'intéresse bien plus que celle-ci.
Ouais,
après j'adore Batman, parce que en effet quand j'étais petit j'adorais Batman. Après ce que je dis, c'est que en réalité, comme il a eu une telle influence sur l'appréhension et l'idée qu'on se fait du personnage aujourd'hui, comment dire, on n'est pas surpris de découvrir Batman hyper dark, alors que si on le remet dans son contexte, en 86, ils ont complètement oublié que Batman, c'est un bad boy. C'était devenu genre vraiment, tu sais, la série télé.
Le détective.
Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça.
À la Batmobile.
C'était exactement ça. Donc en gros, lui, il l'a un peu remis sur la rail en mode genre, non, moi je vous parle d'un truc de bad boy. Et ça, en effet, c'est assez merveilleux. Mais après, toutes les qualités, oui, je suis d'accord avec vous, c'est quand même assez beau.
On a cette tension d'un homme tiraillé. Je pense que, pareil, aucun de nous autour de cette table ne lit énormément de comics. Je pense pour autant que ça fait partie. C'est un bouquin qui révolutionne un peu le genre dans le graphique, dans le scénario, dans aussi la personnalité qu'on attribue à un super-héros qui n'est pas super. En fait, c'est juste un homme normal qui
qui est pété de thunes. Ça, c'est, faut pas l'oublier.
Non, mais fait. Alors, c'est un anti-héros un peu, quoi.
Assez rigolo, pardon, je reviens juste dessus, mais dans le livre 1, parce qu'en fait, Batman Dark Knight Returns, pour le faire court, c'est 4 livres assemblés, tout un cycle qu'avait fait Frank Miller. Dans le 1, ils disent que Batman est millionnaire. Du coup, je disais, putain, millionnaire, un petit peu. Et à la fin, ils disent bien qu'il est billionnaire, qu'il est milliardaire, mais ça m'a fait marrer.
C'est pas une lopette, hein.
Voilà, c'est ça qui est. Ou alors, il a peut-être gagné beaucoup d'argent entre les deux, je ne sais pas. Moi, pour ma part, écoutez, ça m'a beaucoup plu. Mais on vous en a parlé tout au long de cet épisode. Je vais vous demander, du coup, des recommandations pour nos auditeurs, puisqu'il y a autre chose que le Batman dans la vie. Qu'est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs, Simon?
Alors, autre chose que Batman?
Donc, non, mais tu regardes ce que tu veux, je veux dire.
Le comic Watchmen, effectivement, on en a déjà parlé, c'est aussi une énorme référence. C'est Alan Moore qui a fait ça. Et pour rester dans le Batman, mais avec Alan Moore aussi, qui a révolutionné le personnage du Joker, c'est Killing Joke. Un superbe roman graphique aussi.
En fait, quoi.
Oui, et c'est Alan Moore qui va rendre le Joker complètement dérangeant dans le Joker qu'on trouve dérangeant dans les derniers films de Nolan, ou même dans le Joker qu'on apprécie ou non ce film. Mais qu'on apprécie ou non ce film, ce côté dérangeant dans le jeu d'acteur, c'est Alan Moore qui l'a vraiment mis en exergue dans cette œuvre. Je l'ai pas encore lu, ça fait partie du top 2 à avoir de comics Batman et tous ces super méchants. Donc celui-ci, les Batman, si on a l'occasion de retrouver ceux qu'on avait quand on était gamin le dimanche matin avec la Ligue des Justiciers, c'était quand même pas mal.
Bah il était dark, parce que ça il s'est inspiré de la série de 90 de dessins animés qui pour le coup est après The Dark Knight, donc qui prend un peu ce personnage. Donc il est quand même dark, mais il est moins dark.
C'est un bon souvenir.
C'est un très bon souvenir. Ouais. C'est une très bonne. D'ailleurs, ce sera une de mes recommandations. Allez voir cette série animée des 90 avec le super générique dont on se souvient tous. Je vous mettrai la musique, évidemment. D'ailleurs, Gaspard, toi, si tu as une recommandation.
Vas-y.
Déjà, Sin City, effectivement, Watchmen, t'en as parlé. Et puis, en fait, je vais vous renvoyer vers d'autres personnes qui ont fait un très bon podcast sur le sujet de The Dark Knight, un podcast de Comics Blog qui reviennent très longuement sur la carrière de Miller. C'est très intéressant pour le coup. Je vous encourage à aller écouter leur épisode sur The Dark Knight, c'est très intéressant. Gaspard, et toi, Enrico?
Moi, je vais recommander une chaîne YouTube parce que du coup, on a parlé de Watchmen, on a parlé de Batman, de Superman. Et donc,
quel est le
dénominateur commun? C'est Zack Snyder au cinéma, parce que c'est comme Zack Snyder qui a signé, si on peut appeler ça, l'adaptation au cinéma de Watchmen. Et en fait, il y a un YouTuber américain qui s'appelle Ralph de Movie Maker, que je vous conseille, qui est un garçon qui a 17 ans ou 18 ans, je crois, qui fait des vidéos depuis 2-3 ans et qui est absolument à hurler de rire, qui fait des analyses très profondes de films. Il est très souvent pertinent, assez exigeant et vraiment marrant en fait. Et il a une obsession, bah, un peu comme nous, je pense, pour Zack Snyder.
C'est bizarre d'ailleurs pour un Américain.
Et il explique très bien pourquoi c'est tout sauf de la mise en scène et que c'est une catastrophe. Et il a ressorti récemment une vidéo que je vous invite à aller voir sur le Joker aussi, donc de Todd Phillips. Et non, c'est un garçon qui me fait beaucoup rire, qui en a rien à foutre de toute sa communauté et qui est très drôle et qui est surtout très pertinent. Donc je vous invite à aller. Ralph the Movie Maker.
La semaine prochaine, on se retrouvera pour L'Amant
de Marguerite Duras. Ça va être aussi violent, je pense.
Ça va être sûrement aussi dark. Et la prochaine BD, on va vous parler tout simplement d'un chef-d'œuvre du 9e art. On vous parlera
signé Alan Moore aussi.
Exactement. De Max et Lily Unchained. merci à vous, mes chers compatriotes, d'avoir été avec moi. Merci pour vos recos, merci pour votre analyse. N'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux, vous connaissez. Allez sur notre Instagram, abonnez-vous. Et puis, on vous fait des poutous jusqu'à la semaine prochaine.
Salut.